Le journal Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous. Interdire les rassemblements publics et privés ou les autoriser, casse-tête des autorités locales alors que la Covid continue de progresser en France. Affluence dans des événements interdits, foule clairsemée pour les rassemblements autorisés comme la Feria d'Arles, vous l'entendrez. Faut-il vraiment déployer la 5G? Une soixantaine d'élus de gauche contestent dans les pages du JDD. Obscurantisme, répondent certains à droite face à face dans ce journal. La France prise dans le conflit entre la Grèce et la Turquie, nous verrons si l'OTAN peut nous tirer de cette mauvaise passe. Élections locales en Russie sur 3 jours et à ciel ouvert, configuration idéale pour tricher, nous dira notre correspondant à Moscou. Dans ce journal également le joyeux anniversaire aux mammouths et aux chevaux sauvages. La grotte de Lascaux fête ses 80 ans. Le paléontologue Yves Coppens veut la voir rouvrir, il sera notre invité. Et puis plus jeune et en pleine ascension, les coureurs du Tour de France viennent de s'élancer entre Lyon et le Grand Colombier. Et un classico pas classique ce soir, en 3e journée de Ligue 1 de football, le PSG reçoit l'OM. PSG, touché par le coronavirus, peut-être enfin une chance de gagné pour les Marseillais.
France Inter.
Mais d'abord, regardez par la fenêtre. Il fait beau, regardez le thermomètre. Il fait chaud, 23 à 35 degrés du nord au sud. C'est un dimanche aux couleurs de l'été indien. Partout en France, sauf sur les Alpes. La basse saison touristique n'a donc de base que le nom pour l'instant. Beaucoup de campings affichent complets. Illustration en Loire-Atlantique. Julie Munch s'est rendue au camping d'Eléovic à Préfaille.
À peine raccroché, le téléphone se remet à sonner, si bien qu'à la réception, Mathilde ne sait plus où donner de la tête.
Ouais, bah là, téléphone, mail, on a vraiment, ça arrête pas. On s'ennuie pas.
Pas de parents avec enfants, bien sûr, mais des retraités très nombreux à vouloir profiter du calme et de cette météo exceptionnelle. C'est le cas de Nadine, une Calaisienne bien installée dans son camping-car. Cette année, c'est le soleil qui a eu le dernier mot.
J'avais regardé un peu la météo parce que nous devions partir vers le Mont Saint-Michel, mais le temps était un peu moins beau, donc on a pris la direction de Pornic, donc on va profiter.
Des balades à vélo et des visites loin de la foule du mois d'août, c'est ce qui a séduit Patricia, surtout par rapport au Covid-19.
C'est déjà plus calme, puis là avec tous les masques, avec le Covid, on se méfie un petit peu quand même. Là c'est plus relax, les gens ils respectent un peu plus quoi.
Des clients rassurés donc, et une gérante soulagée. L'été indien, c'est la chance qui lui sourit enfin, après un printemps plus que difficile à cause du confinement.
La chaleur qui va durer encore un peu, le point complet sur la météo à la fin de ce journal. Et cet été qui joue les prolongations, est-ce une bonne nouvelle avec l'épidémie de coronavirus qui repart ? À Basse-Goulaine, en Loire-Atlantique, une rave party se poursuit encore ce matin. 2000 personnes sur place selon France Bleu Loire-Océan. Pas d'évacuation malgré l'interdiction des rassemblements festifs. À l'inverse, la Feria du Riz à Arles fait grise mine, maintenue par les élus locaux pour la tradition et pour ses retombées économiques aussi. 10 millions d'euros chaque année, mais masque obligatoire, 2 sièges vides sur 3 dans les arènes, respect des distances de sécurité. Bref, ambiance morose cette année, Elisa Montagna.
Des rues désertes, des terrasses vides et une ville quasiment morte. La Feria du Riz, cette année, ne ressemble à aucune autre. Maxime aficionado.
C'est plus triste. Hein. Les bars, bon, on voit qu'ils travaillent moins. Il n'y a pas les comptoirs dehors. Il n'y a pas les peñas, enfin, les bandas qui mettent un peu la musique et tout. Bon, c'est franchement une prouesse, je trouve, qu'ils aient pu réussir à faire maintenir les corridas alors que c'est en zone rouge. Donc voilà, on vient aussi pour le spectacle.
Et le spectacle est au rendez-vous, effectivement, malgré les mesures sanitaires qui ne changent rien pour Céline et sa famille.
On aime bien les corridas, on aime bien la feria, on aime bien faire la fête.
Et en plus, il y a le soleil, c'est magnifique.
Ah oui. Puis passer un bon moment.
Et pour passer un bon moment, les stars de la tauromachie sont là pour le plus grand bonheur des aficionados.
Bien sûr, Rouli, mais également Ougnon et Salène.
Marie-Thérèse est venue avec son mari, ils ont fait 2 heures de route pour assister à la feria. Et ce qu'elle aime dans la corrida, c'est...
Le grand art. Ah oui. La relation entre le toréador et le taureau, qui est quelque chose pour moi d'extraordinaire. Après, je respecte également les anti-corridas, c'est leur choix. Pourvu qu'ils me laissent apprécier.
Apprécier, malgré l'ambiance un peu gâchée, ça sera encore le mot d'ordre aujourd'hui, avec en clôture de la Feria du Riz, un mano à mano, opposant Diego Ventura et Antonio Ferreira.
Un duel donc entre 2 matadors, l'un portugais, l'autre espagnol. Pendant que le virus progresse, plus de 10 000 contaminations en France en 24 heures, 5 morts dans une maison de retraite de Sévrac, dans l'Aveyron, depuis jeudi dernier. La ville de Bordeaux pourrait dès demain généraliser le port du masque et la Guadeloupe doit présenter au Premier ministre un plan d'action demain. Dans le journal du dimanche, plusieurs médecins signent une tribune qui appelle à limiter autant que possible les rassemblements privés sans pour autant les interdire comme l'a fait la ville de Birmingham en Grande-Bretagne. Une autre tribune dans le journal du dimanche et un autre sujet de santé et d'environnement qui préoccupe, celui du déploiement de la technologie 5G pour les données mobiles. Une soixantaine d'élus de gauche, dont tous les nouveaux maires écologistes, signent un texte dans le JDD. Ils s'inquiètent de la pollution induite par la technologie et de l'absence d'études sanitaires. Et ils réclament un moratoire jusqu'à l'été prochain, comme Léonore Monconduit, maire écologiste de Poitiers.
Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait vraiment un débat démocratique autour des enjeux de la 5G. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire aux citoyens que le déploiement de la 5G, ça va dans le sens du progrès, que c'est dans l'ordre des choses. On sait très bien que la production de nouveaux téléphones implique une consommation de ressources massive. On n'y gagne pas du tout d'un point de vue énergétique. Est-ce qu'on connaît suffisamment les impacts sanitaires de la 5G ou pas pour décider en pleine conscience? Je ne crois pas non plus. Donc, ce qu'on demande, c'est vraiment un débat qui associe les citoyens, les politiques de tous bords, pour que choisir la 5G ou non soit vraiment un choix fait en pleine conscience.
La maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers, jointe par Julie Pietri pour France Inter. Combat désuet, réplique le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde.
On est en réalité dans cette espèce, et je veux combattre ça, d'écologie de la croyance contre la science. Dans quel pays au monde on aurait démontré un quelconque danger différent de la 5G à la 4G? Nulle part. C'est pas tellement fait pour nous, en fait, la 5G. C'est fait pour la capacité de développer des objets connectés qui rendent, par exemple, les villes, notre activité, l'activité des objets que nous utilisons, plus intelligente, moins consommatrice. Et donc, on peut attendre jusqu'à la nuit des temps. C'est obscurantiste.
Jean-Christophe Lagarde sur France Info. Pour plus de clarté sur ce débat 5G, les enjeux posés sur notre site internet, rendez-vous sur franceinter.fr. Les écologistes, faut-il s'en rapprocher pour gagner? C'est la question que se pose en ce moment le Parti Socialiste. Conseil national aujourd'hui à la Maison de la Chimie à Paris, le dirigeant du PS Olivier Faure est favorable à l'union et à une mutation écologique du parti. Il est aussi candidat à sa propre succession, il l'annonce aujourd'hui. Le congrès du PS doit se tenir mi-décembre. Attention aux destructions d'emplois, le cri d'alarme aujourd'hui du président de Suez, entreprise française spécialisée dans l'eau et les déchets. Philippe Varin dénonce l'offre de rachat de son concurrent Veolia. Elle est en réalité très hostile, selon lui. À la clé, un risque de suppression de postes pour une partie des 90 000 salariés à cause des synergies mises en place entre les deux entreprises. Très remonté, le patron qualifie même Veolia de mirage industriel. La France pourrait accueillir une centaine de migrants venus de l'île de Lesbos, annonce aujourd'hui du secrétaire d'État aux affaires européennes. Clément Beaune décrit ce geste comme une réponse d'urgence et d'humanité. Après l'incendie en milieu de semaine du camp de Moria, 11 000 réfugiés dorment en ce moment sur le bitume, sur les trottoirs et dans les champs. Athènes assure qu'un nouveau camp sera prêt sur l'île d'ici 5 jours. La Grèce et la Turquie, toujours à couteau tiré en Méditerranée, elles se disputent des gisements gaziers et la France se retrouve au cœur du conflit larvé. Athènes va même acheter des frégates, des hélicoptères et surtout 18 avions à Rafale français. Ne cherchez pas querelle à la Turquie, prévient le président Recep Tayyip Erdogan à l'attention d'Emmanuel Macron. Grèce comme Turquie sont membres de l'OTAN depuis 1952. Cela pourrait-il permettre de trouver enfin une solution pour arrêter l'escalade? Pas sûr, Pierre Benazé.
Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a poussé Athènes et Ankara à ouvrir un dialogue militaire depuis le 3 septembre. La résolution de leurs tensions était après tout un des motifs qui a conduit à l'entrée simultanée des deux pays dans l'OTAN. Et l'Alliance Atlantique a maintes fois servi d'intermédiaire. Mais cette fois-ci, les instruments classiques que l'OTAN nomme désescalade et déconfliction ont du mal à fonctionner puisque depuis 10 jours, la Turquie accuse la Grèce de fuir le dialogue. Le secrétaire général de l'Alliance affirme que les discussions se poursuivent, mais pressé dans ses retranchements, Jens Stoltenberg est bien obligé de revenir à son leitmotiv, qui est de dire que la Turquie est un membre important de l'Alliance. C'est le même discours qu'il avait utilisé après les tensions entre la frégate française Courbet et les navires turcs. Le problème principal de ce dialogue qui patine est qu'en fait l'OTAN ne peut pas jouer son rôle, car les États-Unis se sont désintéressés de ce dossier. Le choix grec d'acheter des Rafales français est un des signes de ce que désormais la Grèce se replie vers ses alliés européens et que l'OTAN pâtit du désengagement américain. Pierre Benazet, France Inter. À Bruxelles.
Là, la tension reste verbale, mais elle est bien présente. Le Royaume-Uni et Bruxelles se disputent sur fond de négociations sur le Brexit. Il est temps pour le gouvernement britannique de prendre ses responsabilités, gronde le président du Conseil européen. Le Premier ministre britannique accuse l'Union européenne de menacer le Royaume et de faire planer la menace d'un blocus alimentaire qui menacerait la paix en Irlande du Nord. C'est tout simplement faux, assure le gouvernement de République d'Irlande.
Ces jours d'élections en Russie, élections régionales, certes, il s'agit de renouveler la moitié des gouverneurs et des assemblées régionales, mais élections en pleine affaire Navalny, du nom de cet opposant au Kremlin, victime présumée d'un empoisonnement et toujours hospitalisée en Allemagne. C'est donc un scrutin en forme de test pour le président Vladimir Poutine, avec de forts soupçons sur la sincérité du vote, Claude Bruyot.
Le système électoral tel qu'il est organisé risque de favoriser les fraudes en certains endroits, si l'on en croit les opposants russes. Le vote sur 3 jours, officiellement pour des raisons sanitaires, rend plus difficile en effet les contrôles. Mais là où les enjeux sont réellement forts, les malversations aussi seront plus difficiles. On constate déjà dans la région d'Irkoutsk, en Sibérie orientale, que sur les 2 premiers jours de vote, seulement 15% des inscrits se sont déplacés dans une région où la lutte est forte pour le poste de gouverneur entre le Parti communiste et le Parti présidentielle. En revanche, au Tatarstan, à 900 km à l'est de Moscou, où l'enjeu est moindre, près de 60% des suffrages exprimés déjà à la mi-journée. Reste à savoir maintenant si l'appel au vote d'obstruction prôné par l'organisation d'Alexei Navalny pour barrer la route aux représentants du Kremlin sera réellement efficace. L'an dernier, dans la capitale, le parti présidentiel Russie Unie avait perdu un tiers de ses sièges locaux à cause de cette stratégie, mais au profit des communistes. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Clôture des urnes ce soir, résultat officiel demain dans la journée. Aux États-Unis, ciel orange et fumée noire, les forêts brûlent toujours dans l'ouest du Canada au Mexique. Ces incendies ont déjà fait 27 morts cet été. Le président Trump est attendu sur place demain. Allez, on revient en France avec une vieille dame qui fête ses 80 ans ce week-end, mais elle pourrait bien pourtant dévoiler bientôt ses charmes à quelques initiés. Il s'agit de la grotte de Lascaux, en Dordogne, découverte par 4 adolescents. Le maire aimerait l'ouvrir à quelques personnes par an. C'est le cas aussi du paléontologue Yves Coppens. Yves Coppens, l'invité de France Inter aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que Lascaux était fermé depuis 1963. Pourquoi, d'après vous, c'est important d'ouvrir Lascaux au public, même de façon très limitée ?
Alors Lascaux n'a pas été fermé en 63, il a été entre-fermé parce que on a continué à y venir quand même assez régulièrement. Au début c'était 5 jours sur 7 et 5 ou 6 personnes, mais on l'a fermé depuis un certain nombre d'années. Parce que
fermé complètement cette fois-ci.
Oui, fermé complètement pour le moment, pour rétablir une sorte de stabilité, enfin une vraie stabilité à l'intérieur, à la fois de l'écosystème des micro-organismes, et puis aussi du circuit d'air, aussi de l'hygrométrie, aussi de la température. Et Lascaux, en ce moment, se porte très bien, quoi, se porte beaucoup mieux. Elle est toujours très fragile, mais ça va bien. Alors mon idée, moi, c'était, bien sûr, un petit peu contre la conservatrice, mais on s'est vu il y a 2 jours et il n'y a pas de problème entre nous, bien sûr. Mais mon idée serait de réouvrir Lascaux, parce qu'autrement c'est pas la peine de la conserver comme ça en vase clos, à quelques personnes, quelques professionnels et puis surtout quelques témoins, c'est-à-dire des gens comme vous, pour que les peintures et les gravures bénéficient de coups d'œil de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la conservation. De vrais témoignages pour que le public sache que la grotte est là, qu'elle se porte bien et qu'elle n'est pas complètement disparue comme les gens de Montignac l'avaient pensé à une certaine époque où il y avait en effet des excès d'algues et de champignons qui étaient dangereux, qui étaient dommageables.
Et est-ce que le risque, ce n'est pas justement de perturber cet équilibre qui est assez fragile à l'intérieur de la grotte et de voir réapparaître les champignons, les taches comme il y en a eu à 20 ans ?
Si, bien sûr, mais nous avons désormais fabriqué un simulateur, c'est-à-dire que dans un laboratoire de Bordeaux, il y a une installation qui nous fait comprendre à peu près, parce que c'est difficile d'y mettre tous les paramètres, mais à peu près ce qui peut se passer lors d'une visite de 1, 2, 3, 15 personnes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure ou 3 heures. On sait d'avance, en quelque sorte, quels seront les dommages. Donc on peut faire ça avec les meilleures précautions du monde. Et je pense que si on fait ça une fois, deux fois, trois fois dans l'année, en faisant très attention, naturellement, à cette vieille dame, comme vous dites, ça peut bien se passer.
Quand est-ce que ça pourrait se faire, ça ? Vous avez une idée ?
Non. J'avais déjà lancé cette idée auprès du ministère il y a quelques années, et ça s'est fait une fois. Mais ça peut se faire n'importe quand, à partir du moment où La conservatrice accepte, c'est une amie encore une fois, et puis le ministère est d'accord. Ça peut se faire sous, je sais pas quoi, 15 jours ou un mois. Mmh. Ça dépend aussi des conditions extérieures, hein, parce que la grotte n'est qu'à 5 à 6 mètres de profondeur, et la température et les conditions météorologiques extérieures ont finalement une certaine action, de certaines conséquences sur l'intérieur de la grotte, ce qui paraît bizarre. Mais songez qu'il y a des arbres tout en haut, là, plantés dans la terre qui est au-dessus de la grotte, et dont les racines, dont les radicelles arrivent par les fissures de la grotte, arrivent dans la grotte. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très très au fin fond du centre de la terre, mais qu'on est assez près de la surface finalement, quoi.
Vous, ce que vous dites, Yves Copin, c'est que de toute façon, à terme, Lascaux va disparaître, en fait.
Bah oui, c'est bien sûr, mais vous savez, tout le monde sait ça, quoi. J'ai un jour fait une grande série de conférences en Inde, et j'ai eu le malheur de dire que, comme l'Inde passait sous l'Himalaya, de toute façon, la conservation de leur temple ne servait pas à grand-chose, et c'était épouvantable, parce que c'est à quelques millions d'années près, quoi. Mais évidemment, faut pas dire des choses pareilles. Mmh. Alors, pour un géologue, oui, cette grotte est creusée par du karst. Le karst, ça veut dire que l'eau dégringole, que le calcaire disparaît petit à petit, et puis que des trous se font, et puis que la grotte sera un jour percée à d'autres endroits qu'elle n'est aujourd'hui. Et bien sûr qu'elle est condamnée à terme, mais qu'est-ce que ça veut dire à terme? Quelques milliers d'années.
Yves Copin, une réponse rapide, peut-être oui ou non, est-ce qu'il existe d'autres Lascaux?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Très bien. Eh ben, on espère alors. Merci beaucoup Yves Copin, merci d'avoir répondu à nos questions sur France Inter. Vous êtes donc paléontologue.
Absolument.
Un autre morceau d'histoire avec celle de Marcel Pinte, 6 ans, le plus jeune résistant de France, tué le 19 août 44. Il sera honoré le 11 novembre prochain. Son nom inscrit sur un monument aux morts à Aix-sur-Vienne, en Haute-Vienne. L'enfant, surnommé Quinquin, était fils de résistants et transmettait des colis et des messages au maquis. Il est tombé en 1944, victime d'une balle perdue. Du cyclisme et le Tour de France, les coureurs roulent depuis quelques dizaines de minutes maintenant pour un parcours de 174 km entre Lyon et le sommet du Grand Colombier de la montagne, donc, avec le Slovène Primoz Roglic toujours en jaune. Mais bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Marion.
Cette 15e étape du Tour devrait faire de gros dégâts au sein du peloton, hein.
Ah oui, les 70 derniers kilomètres sont vraiment à ne pas manquer, avec deux cols de première catégorie, la montée de la selle de Fromentel, et il y a des portions à 22% d'ascension, c'est quasiment un mur face auquel les coureurs vont avoir affaire, et puis le col de la Biche, très difficile aussi, et sans oublier bien les 17 derniers kilomètres pour aller jusqu'au sommet du Grand Colombier. Ça s'annonce terrible, terrible pour les derniers du classement général, ils vont se battre pour finir dans les délais, et terrible également pour les favoris, où il pourrait y avoir des surprises, voire des défaillances et des retournements de situation. Est-ce que Primoz Roglic sera toujours en jaune ce soir? C'est la grande interrogation. On verra ça. Les Colombiens vont essayer de lui chipper cette fameuse tunique. Or, à noter que l'étape a démarré sur les chapeaux de roue. Plusieurs coureurs ont essayé de sortir. On citera Julien Alaphilippe ou encore le Français Pierre Roland. Pour l'instant, sans succès, peloton groupé, mais qui avance vraiment très très vite dans le département de l'Isère.
Fanny Lechevestrier en direct du Tour avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques pour France Inter. Merci à vous. Le sport sur les pelouses, c'est la 3e journée de Ligue 1 et en tête d'affiche ce classico PSG-OM au Parc des Princes. Le club, touché notamment par la Covid, le PSG récupère des joueurs comme Neymar, Navas et Di Maria, mais il reste handicapé par l'absence de plusieurs cadres parisiens, en premier lieu Mbappé. Peut-être une chance pour l'OM qui n'a plus battu le PSG depuis 20 matchs, Cédric Guillou.
C'est un classico qui n'aura rien de classique cette année dans ce championnat chahuté par la crise sanitaire. Paris sans son équipe type, l'OM perturbé également depuis le début de saison par la Covid, un Parc des Princes avec seulement 5000 personnes et aucun ultra. Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.
On n'aime pas ce match sans spectateurs. C'est peut-être un plus facile de jouer au Parc sans notre spectateur, sans cette atmosphère magique, sans cette atmosphère spéciale.
Et face à ce PSG qui n'a jamais paru aussi prenable depuis longtemps, Marseille croit en ses chances. L'OM qui n'a plus gagné face au PSG depuis novembre 2011. Dimitri Payet, l'attaquant de l'Olympique de Marseille.
Oui, après c'est forcément avec une équipe comme celle-là, on sait qui fait la différence dans cette équipe-là. Donc forcément, on se dit que s'ils ne sont pas là, c'est mieux. Après, il reste quand même des joueurs de grande qualité dans cette équipe. Donc ça restera quand même un match compliqué.
En cas de succès, l'Olympique de Marseille mettrait le Paris Saint-Germain à 6 points au classement. Ça aussi, même si nous ne sommes qu'en début de saison, ça n'aurait rien de classique.
Les autres matchs de cette journée de Ligue 1, c'est notamment Lille qui reçoit Metz. Et c'est en ce moment même. Et de quelle couleur le ciel au-dessus de nos footballeurs ?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Bleu presque partout, Jean-Michel Golinski.
Du soleil et des températures partout exceptionnelles pour une mi-septembre, avec cet après-midi 20 à 22 degrés sur les plages de la Manche, 25 à 27 sur le Finistère, le nord de la Normandie et de la Somme aux Flandres, 28 à Reims et à Paris, 29 à Rennes, 33 à 35 dans le sud-ouest et 30 à 33 en général sur les autres régions, avec le plus souvent du plein soleil, agrémenté de quelques cumulus de beau temps sur le massif des Alpes. Demain, l'ambiance sera encore un peu plus chaude, entre 30 et 35 degrés en général, parfois plus de 38 sur l'Aquitaine, avec une petite nuance pour l'Aude et le Midi-Pyrénées, où la levée du vent d'OTAN va légèrement atténuer la chaleur et s'accompagner d'entrées maritimes le matin sur le Roussillon. Mardi, les températures vont un peu baisser sur la moitié ouest, qui sera survolée par un voile nuageux assez dense en fin de journée.